www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Voilà, donc nous sommes de retour en direct et en public depuis notre petit studio 99 situé à l'espace quartier des Charmilles pour la dernière partie de notre émission. Et nous sommes donc en compagnie de Valérie Perrin, qui est donc secrétaire syndicale au SSM, qui est le syndicat suisse des services publics, des masses médias. C'est parce qu'on parlait un petit peu de tout avant, des masses médias. C'est un syndicat qui est peut-être un peu méconnu ou moins connu que d'autres sur la place de Genève. Je pense au SIT, je pense à UNIA. Qu'en dis-tu ?
Oui, effectivement, parce que nous sommes un syndicat qui a peu eu l'occasion de se présenter publiquement, disons, ces dernières années. On est aussi très petit. On a à peu près 3500 membres. Qui travaillent exclusivement dans les médias électroniques, donc dans la très très grande majorité à la SSR, et quelques-uns, une minorité mais quand même pas négligeable, dans les radios et télévisions privées, financées par la redevance pour la plupart. Voilà, donc,
D'accord. Donc l'ensemble des membres sont des personnels de la SSR en très grande majorité, et de quelques radios et télé privées.
Oui. Particulièrement en Suisse alémanique, parce qu'il y a eu un gros travail de syndicalisation là-bas, mais aussi quelques-unes dans les radios et TV locales romandes.
D'accord. Est-ce à dire que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux membres, et également, pourquoi pas, de secrétaires syndicaux pour implémenter les équipes, ou pas ?
Alors, au niveau de l'équipe qui travaille au SSM, on est un petit peu on atteint les limites de ce qu'on peut financer, disons. Par contre, on est effectivement à la recherche de nouveaux membres, pour autant qu'on arrive, qu'on ait les forces de s'en occuper. Mais en Suisse romande, on a le projet d'augmenter le nombre de membres qui travaillent dans les médias privés. Ouais, c'est un projet.
D'accord.
Si on arrive à survivre à l'initiative Nobilag.
Voilà. Dernière question concernant le syndicat, puis effectivement ensuite on va entrer dans le vif du sujet, mais la partie romande est-elle venue postérieurement à la partie alémanique, ou comment ça s'est passé ?
Non. Vous faites appel à l'histoire. Ouais, peut-être pas tous les éléments en tête, mais disons, je crois que le syndicat est né au Tessin en 1974. Et ensuite, il est assez rapidement devenu national, et donc dans toutes les régions, partout en fait, où il y avait un studio SSR, il y a eu un secrétariat qui a été créé.
D'accord. Et on sait si le taux de personnes syndiquées au sein, par exemple, de la SSR, de quel ordre est-il, hein ?
Il est de l'ordre de 45%, je crois, maintenant. Il était de plus de 50% pendant longtemps, mais il est aujourd'hui d'environ 45%.
Ce qui est encore au-dessus de la moyenne...
Suisse, oui.
Très bien. C'est important de le dire parce qu'effectivement, il y a des syndicats, typiquement le site, qui sont plus concentrés qui sont cantonaux. Et là, il s'agit effectivement d'un syndicat qui concerne toutes les régions de la Suisse.
Absolument. Avec une spécificité quand même, c'est qu'il y a une très forte implantation à la SSR et qu'on n'a pas, comme dans d'autres syndicats, plusieurs branches ou plusieurs entreprises. Enfin, il y a les radios et télévisions privées où il y a quelques accords collectifs, mais très basiques. Mais l'essentiel de notre activité au niveau du contrat collectif, c'est la SSR.
C'est la SSR, je comprends.
Ce qui peut parfois ressembler un peu à un syndicat d'entreprise. Il y a un peu cette caractéristique-là. Mais on est un membre de l'USS, je tiens quand même à le signaler. On est membre de l'Union syndicale suisse. Ouais. Et donc, on est théoriquement, en tout cas, partie prenante de toutes les campagnes syndicales, du mouvement syndical en Suisse.
Ouais. Ça veut dire que dans le privé, c'est plus compliqué, c'est mal vu de se syndiquer, donc les gens n'y viennent pas. Je dis ça parce qu'il y a quand même une télé privée, au moins à Genève, qui est quand même assez connue. Donc là, il y a des frottements qui ont lieu ou...
Enfin. Je pense que c'est plutôt une question de ressources en personnel. honnêtement, parce que bon, après c'est pas le même travail, on n'a pas la même facilité d'accès à des entreprises privées qui sont disséminées sur le territoire qu'à une entreprise comme la SSR avec laquelle on a un partenariat social, comme on dit, assez poussé, avec des dispositions dans le contrat collectif qui prévoient des discussions à tous les niveaux.
Tout à fait. Ben voilà, alors nous en tout cas, l'appel est lancé, on encourage toutes ces personnes-là à se syndiquer, notamment dans le privé, c'est d'autant plus fondamental, et à rejoindre le SSM. Donc le site internet, peut-être on va d'ores et déjà donner l'adresse internet.
Alors c'est www.ssm-site.ch. Site parce qu'il fallait trouver un nom qui n'était pas déjà pris, SSM étant très pris sur le web. Voilà, et puis on a aussi un site de campagne, mais peut-être on en parlera plus tard.
Oui, absolument. Alors justement, la campagne, l'initiative Nobilag, en quelques mots, elle vise à la suppression de la redevance radio-TV. Comment est-ce qu'elle est utilisée, hein, cette redevance? Eh bien, il faut savoir qu'elle représente... Alors, moi, c'est des chiffres que j'ai tirés... Zut, je ne sais plus, je mettrai les sources par écrit, parce que là, je l'ai noté quelque part, mais je ne le retrouve plus. Mais a priori, cette redevance TV représente 1,37 milliard de francs. Son but, c'est de fournir des programmes de radio et de télé complets et de même valeur à toutes les régions de Suisse. Et pour cela, les plus nombreux, les alémaniques, soutiennent les autres dans une sorte, pourrait-on dire, de péréquation financière. C'est-à-dire que les plus nombreux payent plus, mais reçoivent également plus. Alors, il faut savoir que 73% environ de la redevance radio est collectée en Suisse alémanique, 23% en Suisse romande et 4% au Tessin. Et la clé de répartition favorise les minorités linguistiques afin d'assurer la production de contenu dans les quatre langues nationales. Alors, les alémaniques qui financent 885 millions des recettes de la redevance touchent ainsi 525 millions, c'est-à-dire 43% du total, et environ 360 millions sont ainsi redistribués aux autres régions, dont 120 millions, c'est des chiffres quand même qui donnent le tournis, dont 120 millions à la Suisse romande. La majeure partie de la redevance, 1,24 milliard, est attribuée à la SSR, donc la télé ici en Suisse romande, qui exerce sa mission.
Et la radio.
Et la radio, pardon, oui, qui exerce sa mission de service public à travers 7 chaînes de TV et 17 de radio. Et cette manne constitue près de 75% de son budget. 75% de son budget. Hein. Des diffuseurs privés, 34 chaînes de radio et de télé régionales se partagent 67,5 millions. Et dès l'an prochain, leur part se montera à 6% de la redevance, soit 80 millions du total. Et enfin, 55 millions reviennent à l'organe de perception de la redevance, qui s'appelle donc Bilag, et 4 millions à l'Office fédéral de la communication. Quelques chiffres encore, très rapidement, comment la SSR utilise la redevance? L'information, c'est 40% de son budget, soit 605 millions en 2016, et cette part augmentera encore à l'avenir puisque le Conseil fédéral demande qu'elle y voue la moitié de ses ressources. À part l'information, la SSR dépense 23% de son budget pour le divertissement et films, 18% pour la culture et la formation, 13% pour le sport, 7% pour la musique et la jeunesse. Le soutien à la culture, un des piliers du système, passe notamment par des fonds pour le cinéma helvétique, mais aussi par la diffusion de musique suisse. La SSR paye chaque année 54 millions de francs de droits d'auteur destinés aux artistes du pays. Enfin, pour finir, la SSR soutient des manifestations phares telles que des événements culturels, le festival de Locarno, Vision du réel à Nyon, ainsi que des événements sportifs, et un dixième du budget du Tour de Romandie, qui est vitrine de la région, hein, en tout cas en termes de sport, provient par exemple de la redevance. Voilà pour situer un petit peu les choses. Valérie, veux-tu me démentir sur des points ou plus ou moins
ça me paraît tout à fait correct. Ce qui est vraiment remarquable dans ces chiffres, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, parce que c'est quand même assez inédit, c'est cette clé de répartition qui est effectivement extrêmement solidaire, puisque l'exemple le plus frappant, tu l'as donné, c'est le Tessin, qui représente à peu près 4% de population, 4% elle génère à peu près 4% aussi, je crois, des ressources de la SSR. Elle en touche un peu plus de 20 ou 20, je ne sais plus. Donc ça, c'est vraiment, ça en dit long sur ce que cette initiative essaye de détruire, au fond. C'est un mécanisme de solidarité qui soutient, qui est emblématique de ce qu'on appelle la volonté de vivre ensemble.
Absolument. Voilà. Alors, je me souviens qu'à l'époque, quand on avait des t-shirts de l'armée, ça tue, ça pollue, ça rend con, on moquait le département militaire en disant que, parce qu'ils communiquaient en disant l'armée ciment du peuple, et on les moquait pour ça en faisant tomber un gros machin de ciment sur une petite colombe de la paix. Peut-on dire que là également, on a de nouveau pour de vrai cette fois-ci le ciment du peuple qui est touché en touchant à cette redevance?
Oui, c'est, en tout cas, c'est l'analyse qu'on fait, nous, et c'est l'analyse que font la plupart des acteurs du front du non. C'est-à-dire que la SSR, ce n'est pas juste une entreprise. L'entreprise, c'est la forme qu'a pris cette institution, mais la radio-télévision publique, c'est une institution que s'est donnée la Suisse moderne, qui accompagne l'histoire sociale, culturelle et politique de la Suisse depuis les années 30, hein, c'est pas rien quand même, avec son fonds d'archives, avec vraiment la mémoire de ce pays, quoi. Donc ce qu'on essaye de casser, là, c'est vraiment un outil essentiel de la démocratie. Après, on pense qu'on veut des programmes, ça c'est autre chose. Bon, et puis on peut évidemment... et on est en droit même d'être critique, mais c'est l'institution qu'il faut sauver, au-delà de la forme que prend l'entreprise.
Absolument. Alors, si tu veux bien, nous allons commencer par l'extérieur et puis nous reviendrons vers le centre des choses. As-tu eu vent? Et si oui, comment est-ce que vous observez ça depuis le syndicat, d'opinion de nos pays voisins, de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie, concernant justement, alors quand je dis ça, c'est des postures institutionnelles et des postures de la société civile. Comment est-ce que les personnes qui nous entourent lisent cette initiative? Je dis ça parce qu'on a l'exemple de l'Italie avec des télés extrêmement privatisées dont on voit les funestes activités. La France où il y a quand même un service public où on le met en avant. Enfin, l'idée c'était voilà, de parcourir un petit peu tout ça.
Alors, disons, les quelques contacts qu'on a eus autour de nous en Europe montrent que les gens sont quand même assez inquiets parce que, je veux dire, tous les pays d'Europe font face à des attaques très dures contre les services publics, hein, et notamment le service public audiovisuel. Mais là, ça va quand même très loin. Et je pense qu'ils ont mis du temps aussi à réaliser. Hein. Ils étaient assez incrédules. Donc, les quelques personnes avec qui on a pu s'entretenir de ça, notamment des collègues qui sont venus à notre congrès au mois de mars, un collègue français qui est venu parler un petit peu de l'audiovisuel en France. Bon, ils ont vraiment pris la mesure de cette attaque. Et il y a une inquiétude qui s'exprime aussi maintenant au niveau de l'Union européenne de radio et télédiffusion, où là, des informations ont été faites aux membres de l'UER pour les rendre attentifs au danger. Parce que si cette initiative passait, ce serait évidemment un signal extrêmement négatif pour toute l'Europe. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye d'avoir des soutiens aussi sur notre page Facebook, puisqu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est seulement maintenant que la campagne externe commence, mais jusque depuis le mois d'octobre, on est très actifs sur les réseaux sociaux. On a publié pas mal de témoignages de personnalités qu'on a croisées dans des occasions diverses et qui expriment leur étonnement et leur stupéfaction qu'un tel scrutin soit organisé en Suisse. Et essaye de transmettre le message qu'il faut faites attention à ce que vous avez, quoi. En gros, c'est un peu ça le message qu'on essaie de faire passer. Vous avez un outil précieux, ne le sabordez pas. Voilà.
Alors oui, tout à fait. Précisément, qu'adviendrait-il en cas de, selon toi, selon vous, en cas justement de passage de cette initiative Nobilag?
Alors, cette initiative, elle, sous couvert de supprimer la redevance, ce qui a l'air d'être finalement un objet assez technique, elle vise au fond à empêcher le financement public des médias. Donc le texte de l'initiative a été modifié. On y introduit, d'abord on supprime un article important de la Constitution qui est l'article qui précise que la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Pourquoi le divertissement? On peut s'étonner de cette mention-là, mais au fond, la radio-télévision a été jugée trop importante pour laisser toutes ces tâches-là aux mains des privés, y compris le divertissement. Le divertissement, c'est aussi quelque chose de sérieux. On a droit à un divertissement de qualité. Voilà. Je le dis au passage parce que certains disent c'est pas du service public. Oui, c'est aussi du service public.
J'en profite pour... moi, de mon côté, j'ajoute mon truc, étant ludothèque et moi-même de formation, partie du secteur subventionné. Clairement, nous aussi, quand on dit ludothèque finit de jouer parce qu'on veut là aussi briser les conventions collectives, tout ça, eh bien, l'idée, c'est également ça, c'est de se dire le jeu, le divertissement, c'est des choses qui sont effectivement très sérieuses. et qui pourrait qui influe énormément le bien-être et voilà, mm-hmm. La petite parenthèse, excuse-moi.
Pas de souci. Donc il y a aussi cette idée que la radio et la télévision doivent prendre en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Donc ça, c'est vraiment, on est dans cœur du concept du fédéralisme. Et évidemment, et ça c'est la partie déontologique, présenter les événements de manière fidèle, refléter équitablement la diversité des opinions. Donc toute cette partie-là que je viens de vous lire pratiquement au mot près, elle disparaît. Elle est biffée de la Constitution, c'est quand même pas anodin. Et elle est remplacée par un texte qui prévoit que la Confédération ne peut pas financer des chaînes de radio et de télévision, ne peut pas subventionner des chaînes de radio et de télévision. Elle ne peut pas le faire que ce soit par la redevance ou par l'impôt. Donc c'est tout financement public qui est exclu par cette initiative. Voilà.
Comment est-ce qu'on justifie ce truc-là? De la part des initiants, comment est-ce qu'ils ont essayé de justifier ça? Parce que ça paraît absurde, ouais. Comme ça, on se dit, mm-hmm. Mais c'est pas possible, je veux dire. On sait, d'ailleurs, ce sont des services de qualité qui sont reconnus ailleurs également. Je veux dire, certaines émissions de radio, Mémoire vivante, enfin, il y a des choses qui sont vraiment reconnues comme étant, faisant partie d'une excellence en termes de travail. Et on veut briser tout ça.
Mm-hmm. Alors, bon... Il est clair que au niveau de l'argumentation, on y trouve un espèce de salmigondi de différentes influences derrière ce texte dont on sait maintenant qu'il a été rédigé, enfin dont l'idée est née dans les cerveaux de trois étudiants de l'université de Saint-Gall après une journée de probablement de cours autour d'une bière. Hein, ça a fait l'objet d'un article dans je ne sais plus quel journal. Donc c'est une espèce de lubie au départ de trois étudiants probablement d'obédience ultralibérale. Et puis c'est devenu, c'était un pari quoi, en quelque sorte. Et puis c'est devenu quelque chose qui rallie toute la pensée d'abord libertarienne, hein, et non pas libertaire. Il faut vraiment faire la différence.
On dit ça.
Donc c'est en gros c'est ma liberté individuelle au-dessus de tout, hein. Ma liberté est votre liberté individuelle au-dessus de tout, donc ça justifie cette fameuse phrase je ne paye que pour ce que je consomme,
voilà. Un truc horrible,
qui est une aberration, mais... qui a été évidemment vraiment raillé partout en disant à ce moment-là, je ne paye plus pour tes routes, je ne paye plus pour les écoles de tes enfants.
Sans parler des soins, tout ça. Ouais.
Mais bon, rien n'y fait. Hein. Cette idée continue à faire son chemin. Y a l'idée aussi complètement absurde qu'il faudrait éradiquer la télévision d'État. On parle toujours de la télévision, hein, rarement de la radio. La télévision d'État parce que subventionnée, le financement est organisé par l'État, donc ce serait une radio et une télévision d'État, ce qui est absurde puisqu'au fond, tout a été fait précisément pour que ce ne soit pas une radio-télévision d'État, puisqu'on a été jusqu'à externaliser la perception, ce qui par ailleurs aujourd'hui pose problème, c'est pour ça que c'est complexe, pour éviter que ce soit directement l'État qui organise cette perception. Donc cet argument est absurde, mais enfin il continue là aussi à faire son chemin sur les réseaux sociaux et ailleurs.
C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il tient, c'est qu'il s'accroche cet argument alors qu'il est vraiment un peu du domaine de l'absurde quand même. Enfin soyons un petit peu rationnels. Mmh. Enfin, alors dis-moi, qu'en est-il du point de vue des partis politiques, hein, dans l'ensemble du spectre des partis politiques? Est-ce qu'ils ont immédiatement pris fait et cause justement pour cette campagne de non-nobilag qui a été lancée? C'est le SSM qui a lancé ça?
Alors, il y a plusieurs acteurs qui se sont mis en route à peu près en même temps, disons. Mais il y a eu une constitution de ce qu'on appelle le comité officiel, l'association. Alors, en Suisse romande, c'est l'association contre la disparition des radios-télévisions. En Suisse alémanique, ça s'appelle Nein zum Sendeschuss, à la fermeture des émissions, quoi. Et puis, je ne sais plus le nom au Tessin, mais enfin, tout ça s'est fait à peu près en même temps, courant octobre, je crois.
Okay.
Avant ça, il y a eu évidemment tous les débats au Parlement. Donc, une majorité des parlementaires avait refusé à la fois le contre-projet dans les différentes instances où il a été discuté et l'initiative Nobilag. Puis là, maintenant, il y a des prises de position en cascade de tous les partis politiques. D'ailleurs, ça va au-delà, c'est de toutes les associations, tous les groupements dans ce pays sont en train de prendre position pour ou contre Nobilag, mais généralement contre. Et ce qu'on attend encore avec un peu de... avec, bon, y a un tout petit peu de suspense, mais pas beaucoup, c'est la position de l'UDC, qui sera d'ailleurs prise le 27 à Genève,
okay.
Au cours d'une assemblée des délégués ou d'un congrès, je ne sais exactement. Et à ma connaissance, pour l'instant, il y a un seul parti qui a soutenu cette initiative, c'est l'UDF, l'Union démocratique fédérale, qui est un tout petit parti, voilà, qui pèse pas beaucoup dans l'échiquier fédéral.
D'accord. On l'a pas dit, hein, en fait, mais la votation aura lieu le 4 mars.
Oui, effectivement. Donc, c'est tout prêt. Mmh. Il nous reste, en gros, si on tient compte du fait que les citoyens et citoyennes suisses vont recevoir, selon les cantons, le matériel de vote entre 3 semaines, 1 mois, et dans certains cantons, et une semaine avant, ou 10 jours avant, je ne sais plus. Ça veut dire qu'il reste très peu. Il reste 4 semaines de campagne, quoi, ouais. En gros.
Alors, comment cette information, ces informations-là sont relayées? Est-ce que selon toi, vous arrivez... Alors, une autre question qui va avec, donc si j'ai bien compris, ce collectif d'entités, c'est une intersyndicale étendue. J'imagine qu'il y a d'autres associations qui en font partie pour dénoncer le non-Nobilag.
Tout le monde y participe d'une manière ou d'une autre, ouais. Effectivement. Maintenant, on a une coalition syndicale, effectivement, aussi, qui va culminer dans un grand rassemblement prévu à Berne le 30 janvier. Donc, c'est ce rassemblement auquel on a donné le nom de Rassemblement contre l'extinction des Lumières. Et là, on aurait pu mettre lumière au pluriel aussi, hein,
oui,
s'il y a un petit peu ça derrière.
C'est le 30 janvier, ça.
Voilà, le 30 janvier, c'est un mardi, c'est pas idéal, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est pas facile de réserver la place fédérale. Et puis, on se dit que par les temps qui courent, on se débrouille pour venir, quoi. Et je pense que beaucoup de gens vont être présents ce jour-là. Cet événement est organisé par le SSM avec l'Union syndicale suisse et Syndicom, qui est l'autre syndicat de la branche des médias.
Tout à fait, ouais. Absolument. Dont on avait eu, avec lesquels on avait parlé pour je ne sais plus quel sujet. Mais bon, très bien, très bien, très bien. Alors, pour les personnes qui sont encore en quête d'informations concernant justement cette initiative et le fait qu'il faut. Voilà, enfin, qu'il faut se déterminer par rapport à ça. Comment peuvent-elles s'informer sur le site, j'imagine, effectivement, mais vous-même battez campagne d'une certaine manière,
enfin, oui, alors évidemment, maintenant, on est en pleine campagne visible. Hein, on n'a pas été jusqu'au fait. Et puis là, il commence à y avoir des stands de distribution. On en a eu un ce matin, enfin cet après-midi aussi, à la place du Mollard. Il y avait un stand organisé par le SSM qui a été très fréquenté. Avec distribution d'informations. Alors, on a toute une série toutes sortes de matériel à distribuer, évidemment, comme toujours dans les campagnes. Il y a d'autres actions qui s'organisent partout. Les comités officiels organisent de leur côté également des choses. Les partis, dans certaines régions, c'est par exemple dans le canton de Vaud, c'est les Verts qui organisent les distributions. Sur Genève, c'est le PDC. Vous voyez, une espèce de répartition comme ça, une espèce d'alliance un peu étrange entre des partis de tous bords. Pour une cause qui transcende largement
le clivage
gauche-droite habituel.
On peut dire qu'il y a un large consensus qui
absolument,
qui
a cours, voilà.
Bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour le moment.
Pour l'instant, parce que nous, en tant que syndicat, on a aussi des thèmes et des agendas, un agenda qui va aller au-delà de Nobilag, de l'initiative pour la suppression de la redevance, parce qu'on l'appelle toujours Nobilag, mais au fond, on s'est fait un peu imposer ce terme. Il est devenu un petit peu problématique, hein, parce que Bilag concentre tellement de haine populaire qu'on est un peu otage de ce terme. Donc, l'initiative pour la suppression de la redevance radio-TV pourrait avoir évidemment des conséquences dramatiques, c'est-à-dire que évidemment c'est la fermeture de toutes les radios et télévisions financées par la redevance, hein. On peut pas survivre avec 25% de son budget.
Exactement.
D'autant plus que, et ça c'est vraiment l'argument important, aujourd'hui 25% vient de la publicité à la SSR, mais cette publicité est évidemment tributaire de l'existence de programmes. On peut pas imaginer que sans programme et sans programme de qualité notamment, il y a encore des annonceurs qui soient intéressés. Voilà.
Absolument.
Et pour nous, ça va au-delà, je disais, de cette votation, parce que la redevance à 365 francs, comme elle a été annoncée par la conseillère fédérale Doris Leuthard, c'est déjà une coupe d'à peu près 100 millions. Donc on va de toute façon faire face à des grosses difficultés.
Ouais. Donc la partie n'est pas gagnée.
La partie n'est pas gagnée.
Alors, quelle retour avez-vous constaté au sein de la population? Est-ce que vous avez assez rapidement vu que les gens prenaient fait et cause pour, enfin, contre Nobilag? Est-ce qu'il a fallu convaincre? Est-ce qu'il faut toujours convaincre? Est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que, d'une manière assez... Effectivement, une fois qu'on est sorti de cette sémantique un peu piégeuse, hein, du bilag, effectivement, parce que bilag, c'est vrai que c'est presque un gros mot dans la langue populaire, ouais. Mais une fois qu'on est sorti de ça, est-ce que les gens sont assez évidemment et comprennent les enjeux extrêmement importants qui ont cours?
C'est comme toujours, hein, vous avez des publics différents, hein, dans la rue. C'est pas si simple, disons. Mais je dirais qu'à la longue, on commence à avoir de plus en plus de gens qui sont un peu informés et qui ont compris qu'il y avait quand même quelque chose d'assez grave qui se jouait là. Ouais. Mmh. Mais je pense que c'est pas gagné encore parce que, d'abord, il y a plein de gens qui... Nous, ça fait 3 mois qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc, on a l'impression que tout tourne autour de cette initiative, tout le monde en parle. Mais au fond, quand on discute à l'extérieur, ben, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne sont pas encore tout à fait informés. Même des choses basiques. Je pense que ça serait important, surtout maintenant, d'essayer de parler aux gens âgés qui sont dans une situation un peu, comment dire, on peut pas les renvoyer vers le web pour aller chercher, ouais, des programmes demain qu'ils auront plus, qu'ils et elles n'auront plus via la radio-télévision publique. Donc c'est des gens qu'il faudrait sensibiliser et à qui il faudrait dire clairement que pour garder ce qu'ils et elles ont aujourd'hui et qu'elles apprécient, il faudrait absolument refuser cette initiative mortifère.
Ouais. On arrive doucement à la fin de l'entretien parce que le temps vole et il est déjà -6, donc on a le temps encore pour une ou deux questions. Mais je voulais encore te demander, est-ce qu'on en observe effectivement, parce que quand tu parlais de ces étudiants à Saint-Gall, j'ai l'impression que Nobilag, c'est un truc, vraiment une émanation de jeunes urbains, consommateurs, et qui effectivement font le pari de se dire, moi je vais ensuite trouver des trucs quoi qu'il en soit sur Internet. C'est un petit peu le pari qui est fait, en oubliant effectivement des pans entiers de la population. Est-ce qu'on peut évidemment clairement dire que tout le monde, quoi qu'il en soit, sera touché par la fin d'un service public de cette importance-là? Parce que ce soit la télé, mais la radio, comme tu l'as dit, mais également des radios privées qui font des informations locales, qui sont légitimes également, risquent de disparaître, plus que risquent, vont disparaître.
Absolument, oui, oui. Et puis c'est tout un tissu social, un tissu économique. On a calculé le nombre d'emplois qui sont impactés par cette initiative. C'est évidemment les employés de ces radios et télévisions SSR et locales, mais aussi des tas d'emplois de prestataires de services, des tas d'emplois dans la culture. C'est énorme. Hein. Le chiffre est assez vertigineux. On a calculé que ça pouvait concerner jusqu'à 20 000 personnes. Et des chiffres ont été même plus précis, ont été calculés par un institut économique à Bâle qui a chiffré la perte économique d'une suppression de la redevance au Tessin à l'équivalent du tourisme. De ce que représente le tourisme au Tessin.
Au Tessin, ouais. Ce qui doit être une belle part.
C'est ce qui donne une bonne image de ce que ça représente. Bien sûr. Puis après, il y a tout l'élément culturel, enfin comment dire, l'existence même de la Suisse romande en tant qu'entité qui se vit comme une entité spécifique, mm-hmm, est beaucoup entretenue par l'existence de médias qui jouent leur rôle. Enfin, tout ça, c'est assez difficile à chiffrer et à appréhender. Mais enfin, on a tous intuitivement une petite idée du rôle que joue le service public dans cette vision, dans cette perception des choses.
Absolument. Et dans cette fabrication, effectivement, d'une identité, d'une culture. D'ailleurs, les acteurs culturels locaux, je crois que
ils ne se sont pas trompés.
Exactement.
Ouais.
Là, ils sont mobilisés, vont debout pour dire exactement ce que vous dites aussi. Cette initiative, elle est à jeter à la poubelle.
Absolument, oui. Il y a plein de choses qui s'organisent avec les milieux de la culture, d'ailleurs.
Ouais, et qu'on salue, d'ailleurs. Alors, pour les personnes, donc, pour en terminer là, aujourd'hui, on aura certainement d'autres occasions pour ajouter encore des informations, mais que faut-il dire aux personnes? C'est de se renseigner, c'est d'en parler autour d'elles, parce qu'on l'a bien compris, il s'agit encore de personnes qui n'ont pas accès à ces informations-là, de faire ce travail-là. Et pour faire ce travail-là, eh bien, elles peuvent venir consulter ou consulter le site internet, par exemple, du SSM.
Oui, absolument. Et d'autres, du comité officiel, tout ça est en réseau. Hein.
Et le site de la campagne qui est...
Alors, le site de la campagne, c'est madeinswitzerland.media.
Voilà, ça, c'est le site spécifique dédié à la campagne. Dernière chose, l'agenda, on l'a dit, donc il y a le 30 janvier, la manifestation à Berne. D'autres choses de prévues, des stands ou des choses que l'on peut annoncer d'ores et déjà? Alors, pour le moment, on s'arrête au 30 janvier.
Alors, j'ai pas en tête tout le calendrier, hein, mais il va y avoir des tas de choses qui seront annoncées. Certaines sont à l'état de projet encore, ouais. Donc je peux pas vous donner je peux pas te donner de date là, comme ça. Mais il y a toutes sortes d'événements qui vont se passer, surtout dans le domaine culturel. Voilà, je ne peux pas en dire plus.
Nous, on se tiendra informés et on relaiera l'information tout simplement comme ça. On le rappelle, donc la votation, ce sera le 4 mars. Donc effectivement, le matériel de vote et donc la possibilité de voter par correspondance, c'est à peu près 15 jours avant environ. Donc on recommande évidemment aux personnes de voter comme il se doit, de se tenir informé, d'être critique par rapport à cette initiative qui nous paraît en gros absurde. Je ne crois pas qu'on puisse dire grand-chose d'autre. Et puis voilà.
Absolument. Je voulais juste préciser une chose encore.
Bien sûr.
Ce qui nous fait un tout petit peu peur, c'est que à la fois, il y a toute une série de... Enfin, la plupart des associations, partis, organisations prennent position contre ce texte, et c'est logique. Et on craint un petit peu une polarisation du type des votes dont on a beaucoup parlé, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, et même en Suisse. C'est un vote anti-establishment. Donc le risque reste toujours que plus les gens prennent position en tant que groupement, enfin les élites quoi en gros, plus on soit dans ce genre de configuration. C'est pour ça qu'il ne faut pas relâcher l'effort et jusqu'au bout il faudra vraiment se battre pour expliquer et pour affirmer le droit à une radio-télévision publique. Dans ce pays.
Et puis à bien comprendre les implications et les conséquences du vote du 4 mars. Merci beaucoup Valérie Perrin. Donc tu es secrétaire syndicale OSSM, le syndicat suisse des masses médias. Et puis courage pour la suite des opérations.
Merci.
Et à la prochaine.
À la prochaine.
Voilà, nous on remercie vite toute l'équipe de Fréquence Banane, Genève et Lausanne. Et puis il est l'heure 59, on rend l'antenne maintenant. À la semaine prochaine, ciao.